Alors, ce deuxième cours est donc consacré aux chapitres 2 et 3 de la Genèse. Bien sûr, c'est un must de lire les chapitres du péché de nos premiers parents dans les chapitres 2 et 3 de la Genèse pour réfléchir sur le mal, la culpabilité, le salut, etc. Et donc, je vais vous inviter à faire une lecture assez précise de ce texte. C'est pourquoi vous avez d'ailleurs le texte au verso. Comme vous voyez, il y a 7 parties à G dans votre plan, et nous suivrons les parties A à G du texte que j'ai découpé donc en 7 parties. 3 pour le premier, le chapitre 2, et 4 pour le chapitre 3. Donc, nous allons essayer de comprendre ce texte, mais quand on étudie un texte biblique en théologie, on ne se précipite pas sur le texte pour essayer de l'interpréter. On prend le texte d'abord et on le lit avec une grande acuité. Il y a une première étape qui s'appelle, disons, l'exégèse, et une seconde qui s'appelle l'herméneutique. L'herméneutique, c'est donc cette science de l'interprétation, herméneutique. Normalement, l'herméneutique vient longtemps après la phase de l'exégèse. L'exégèse, c'est scruter le texte, le lire par le menu, et surtout pourquoi ? Pour percevoir tous les indices littéraires qu'on peut mettre en évidence, qu'on peut découvrir. Ces indices littéraires vont nous indiquer, ce sont des indices, hein, dans quel sens il faut interpréter. Mais si on n'a pas vu un peu tous les indices qui fourmillent dans le texte, il y en a des dizaines qu'on ne remarque pas, parce qu'on va un peu trop vite, on lit, bon, on dit, mais je connais l'histoire, etc. Hein. Mais il faut regarder avec grande précision. Et c'est ce que je vais faire avec vous pour lire ce texte qui se présente comme un récit imagé de la création de l'homme et de la femme, et puis du péché de l'homme et de la femme, de nos premiers parents, comme dit saint Ignace. Alors je remarque tout de suite que, et donc c'est déjà un objet herméneutique, je remarque tout de suite qu'il y a deux récits de la création de l'homme et de la femme. Il y a le chapitre 1, avec les 7 jours, et Dieu vit que cela était bon, et le 6e, que cela était très bon, avec ce fameux verset de Genèse 1 à 26, hein. Dieu créa l'être humain à son image il les créa, homme et femme il les créa. Donc, ça c'est un grand résumé, très, un peu abstrait si on veut, alors que maintenant nous allons avoir un Dieu beaucoup moins abstrait, qui ne crée pas par la parole, mais qui crée en modelant. C'est le Dieu potier. C'est le Dieu potier, qui est moins abstrait et qui travaille de ses mains. Voilà. Alors, comme je vous dis, on ne va pas tout de suite essayer de se dire qu'est-ce que ça veut donc dire, qu'est-ce que ça veut donc dire. On va essayer d'abord de remarquer tous ces indices. Il y en a beaucoup. Alors, on peut signaler que ce récit de Genèse 2-3 n'est pas un récit unique à l'époque. Dans le Moyen-Orient, les Babyloniens, les Sumériens, les Assyro-Babyloniens, etc., avaient aussi des récits de création, de cosmogonie, comme on dit, hein, comment le monde a été généré, cosmogonie. Et on retrouve des éléments un peu semblables parfois dans d'autres littératures, comme on dit, le dieu Marduk intervient dans un texte qui s'appelle Enuma Elish. Je suis à la page 11 de votre syllabus. À Sumer, il y a une autre épopée, l'épopée de Gilgamesh en Assyro-Babylonie. C'est un troisième type encore de récit. Et on remarque des ressemblances. Par exemple, il y a la plante de la vie. Ici, on a l'arbre de la vie. Il y a la question de l'immortalité. Il y a aussi un animal qui tanque, etc. Bon. Il y a aussi une espèce de rencontre ou de création de l'homme et de la femme en deux temps. Hein. Donc il y a des ressemblances, mais évidemment il y a de grandes différences. Et c'est sur le texte que je vais me concentrer sans signifier les différences. Je vais lire le texte, en fait, avec vous, en vous invitant à être attentif à certains indices littéraires dont je vous donne déjà un petit peu une aide. À l'IET, on fait beaucoup ça. Eh bien, lorsque vous préparez un texte, vous devez avoir des crayons de couleur. Il faut colorier. On revient à l'école maternelle, colorie. Et les élèves qui ne font pas bien ça, eh bien, Saint-Nicolas leur offre des crayons de couleur à la fête de la Saint-Nicolas de Lieu. Pour bien leur dire qu'ils doivent apprendre à colorier. Alors, par exemple, j'ai mis ici en jaune, vous ne voyez pas, mais vous voyez un peu de jaune quand même, quand chaque fois qu'il y a l'homme, et vous voyez que c'est un paquet, chaque fois qu'il y a arbre, j'ai mis en orange, arbre. Et puis j'ai mis en rouge, chaque fois que dans la bouche de Dieu, ou d'Adam, ou d'Ève, on parle de mon, je, nous. Oui, pas le genou, ça c'est la communauté, c'est le genou. Mais je, tu, nous. Donc comment ces pronoms apparaissent? Alors vous allez voir par exemple que Adam met beaucoup de temps à dire je. D'ailleurs un enfant aussi met beaucoup de temps à dire je. Il dit d'abord la poupée de bébé, puis il dit la poupée de Bernard, et puis à ce moment il dit ma poupée. Et puis après, il dit « je, j'ai une poupée ». Mais tout ça, c'est progressif. Eh bien, il y a quelque chose comme ça qui apparaît dans le texte. Vous voyez qu'il y a donc sept divisions. Elles sont toutes redivisées en deux, sauf la création de la femme qui est divisée en trois. Je lis donc les versets 2, 4b à 8. « Le jour où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, parfois je redirai un mot ou l'autre pour vous attirer votre attention. Il n'y avait pas encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur modela l'homme avec la poussière prise du sol. Alors, poussière, c'est Afar, et sol, c'est quoi?
Adama.
Adama. Ah. Mais c'est pas Adam, hein? C'est le sol, Adama. Après, on parle d'Adam, mais donc Adam a un nom qui dérive de Adama. Donc, ça veut dire que c'est le terreux, celui qui vient du sol, de l'humus. Et donc, c'est intéressant de voir que terre, sol, Adama, arrive avant le nom propre ou commun, on va réfléchir là-dessus, de Adam. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière prise du sol. D'ailleurs, si vous redescendez tout à la fin, vous allez de nouveau trouver la poussière et le sol en F. Donc c'est assez intéressant qu'au début on parle de la poussière du sol et tout à la fin on dira tu es poussière, tu retrouveras la poussière, tu retrouveras le sol. Donc c'est ce qu'on appelle une inclusion, des thèmes qui sont annoncés au début et qui reviennent à la fin. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie. Ah, voilà un deuxième élément. Donc il a modelé avec de la terre, avec une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Troisième élément. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'homme. Donc, trois expressions caractérisent cette création de l'homme. Il y a le vocable de la terre, Adama, la terre. Adam est un terreux, un glébeux. Il vient de l'humus, l'humain vient de l'humus, aussi en français, humain, humus. Ensuite, ça signifie une origine un peu minérale de l'homme. Et puis, il y a deux expressions qui sont plus animales, haleine de vie et être vivant. Haleine de vie et être vivant. Voilà les trois composants dont se sert le potier pour fabriquer son Adam. Ça rappelle donc une parenté avec les animaux et avec la terre. Donc une humble origine de l'homme. Alors Adam, nom propre ou nom commun? Alors quand vous lisez la Bible en français, souvenez-vous que c'est une traduction parmi beaucoup d'autres, et qu'il est très difficile d'avoir une traduction qui rende toutes les subtilités de l'original. Mais l'original, en plus, il se trouve en deux exemplaires. Il se trouve en hébreu et il se trouve en grec. Alors, comme vous savez, il y a le texte, on dit le texte massorétique, le texte en hébreu, bon, si c'est en juxta. Et puis alors, il y a le texte qu'on appelle la Septante, la Septuaginta. Déjà, les Hébreux, qui étaient en diaspora en Alexandrie et qui parlaient finalement plus le grec que l'hébreu, ont traduit la Bible en grec. Et donc, on a une traduction grecque de la Bible hébraïque d'avant Jésus-Christ. En tout cas, pour ce qui concerne l'Ancien Testament, bien sûr. Mais attention, parce que c'est très curieux. Je dirais, au siècle X, on prend la Bible hébraïque, on la traduit en grec, mais on continue un peu à travailler l'hébreu, et finalement, au siècle X plus 2, la Bible hébraïque a été un peu modifiée, mais le texte grec, lui, n'a pas changé. Alors, curieusement, on a parfois un texte grec qui est plus ancien que le texte hébreu. Hein? Parce qu'entre-temps, on a continué un petit peu à modifier celle-ci, à ajouter un mot, à supprimer, ou je ne sais pas quoi, enfin, à faire des choses donc, de rédaction. Donc ceci, parfois, reflète un état plus ancien que l'hébreu. Ce n'est pas parce qu'on lit l'hébreu qu'on a nécessairement le texte le plus ancien. Les exégètes s'amusent beaucoup avec ça, hein, très finement, de savoir comment on peut dater les textes à partir de certains indices. Alors, l'homme, ben en français, l'homme, c'est l'homme. Tout le monde sait bien que c'est l'homme. Mais c'est qui, l'homme? Ben, c'est la femme aussi. Hein. Donc, le français a cette terrible ambiguïté de dire l'homme, ben, l'homme, c'est l'homme et la femme. Ce qui n'est pas le cas en néerlandais. Hein. Mens, man, vrouw, en allemand, etc. Et dans beaucoup de langues, on différencie. Et donc ça, c'est une grande tromperie dans vos traductions. Hein. Vous allez être trompé très souvent. Hein, parce que Dieu créa l'homme. Non, il créa Anthropos. Il créa l'être humain. Homme et femme, il le créa. Alors cette fois-ci, c'est Manévrov, d'accord. Hein. Mais d'abord, il créa Anthropos. Et puis, cet Anthropos se décline en homme et femme. Aner et Gumé. Hein. Ou bien Arsène Tellu, mâle et femelle. Voilà, donc, il faut bien lire vos textes en français, mais pour trouver ces subtilités, c'est parfois bon d'avoir deux traductions. La Bible de Jérusalem, la Tob, qui est la traduction œcuménique de la Bible. Alors, le mot Adam, qu'on traduit simplement par l'homme, en hébreu, il porte l'article l'homme, mais quand il s'agira d'Adam, on dira aussi le Adam, l'Adam. Comme dans beaucoup de langues aussi, un nom propre peut avoir l'article. Hein. Ou Antonio, l'Antoine, en dit-on en portugais. Hein. On met l'article pour des noms, comme on dit, la Marie, ou des choses comme ça, parfois. Donc, est-ce que Adam, ici, non seulement il est l'être humain, mais est-ce qu'il est l'être humain pris au sens le plus générique, ou est-ce que c'est déjà un nom propre? Le nom de l'homme, mâle, qui s'appellerait Adam. Donc je ne peux pas entrer dans les détails parce que c'est très compliqué, mais je vous signale quand même que le mot « homme » qui se trouve dans vos traductions françaises dit soit l'être humain, soit l'homme masculin, et dans l'homme masculin, il correspond à deux mots en hébreu, « Adam » et « Ish », « Adam » et « Ish », à trois mots en grec, « Anthropos »,« Adam » et « Aner ». Et le mot « femme », lui, il est fidèle à lui-même, c'est Isha en hébreu et c'est Guné en grec. Donc voilà, quand vous lisez le texte, il faut être un peu prudent en vous disant, est-ce que quand je lis l'homme, là, ou quand je dis même Adam, est-ce que c'est Adam générique, le genre humain par exemple, ou est-ce que c'est un monsieur qui s'appelle Adam Schmidt, ou je ne sais pas quoi. Hein. Alors le commandement, B. Le Seigneur Dieu fit germer du sol de nouveau, Adama, tout arbre, alors des arbres il y en a beaucoup, hein, tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. l'arbre de vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais. Alors cette expression, l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, revient plusieurs fois. Il faut bien le retenir. Et donc, il crée toutes sortes d'arbres, mais entre autres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ce qui est bon et mauvais. Est-ce que l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre de vie, ou l'arbre de la connaissance, ou tous les deux? Le texte est assez ambigu, et peut-être pas expressément. Hein? Donc quand on lit, vous voyez, toutes sortes d'arbres bons à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, au milieu du jardin est juste entre les deux. Donc l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, est-ce qu'on c'est le même? Ben, peut-être non. Est-ce qu'ils sont tous les deux au milieu du jardin? Oui, il ne faut pas les confondre. Non, parce que l'arbre de vie est bon et l'autre, il est un peu plus dangereux. Vous voyez donc une certaine ambiguïté. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Alors vous voyez que j'ai mis entre crochets carrés là trois petits points parce qu'on saute du verset 9 au verset 15. En effet, les versets 10, 11, 12, 13, 14 parlent des quatre fleuves. Tout à coup, puisqu'on a parlé du sol et tout ça, eh bien, on raconte qu'il y a quatre fleuves. Mais au fond, on se demande bien ce que ça vient faire là au milieu. Hein? Ça, c'est l'exégèse. Alors, on ne dit pas qu'il ne doit pas y être, mais on se dit, tiens, si on saute ce passage, ben, le récit va très bien. Le récit va très bien. Donc, on l'a peut-être ajouté comme un complément dans quel but on n'en sait trop rien. Mais peut-être que si on l'enlève, eh bien, on peut suivre le texte et trouver une logique tout à fait cohérente sans s'embarrasser de ces fleuves. Il prit l'homme, l'établit dans le jardin, cultivait le sol et le gardait. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme. Alors attention, c'est la première parole de Dieu. Hein. Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Alors on écrit tu devras mourir, mais si on voulait traduire littéralement l'hébreu, on dirait de mort tu mourras. De mort tu mourras. L'hébreu utilise comme ça, hein, mot tamut. Ça veut dire deux fois la même racine, de mort tu mourras. Ça veut dire tu mourras certainement. Hein. Tu peux être sûr. Hein. Alors tu devras mourir. Alors vous voyez le français tu devras, c'est quoi ce devoir, hein. En hébreu c'est beaucoup plus simple. Tu manges de l'arbre, de mort tu mourras. Conséquence logique. Hein, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un truc qu'on a inventé ensuite. Non, c'est la logique. Tu fais ça, tu mords, tu mourras. Alors, quelques petites remarques là-dessus. Donc, il y a deux arbres un peu spéciaux, sans doute tous les deux au milieu du jardin. Il est très important de noter que qu'est-ce que Dieu leur dit ? Qu'est-ce que Dieu leur dit? Si vous ne regardez pas le texte, qu'est-ce que Dieu leur dit? Il leur interdit de manger, c'est ça?
Non.
Il leur permet de manger. Il leur permet de manger. En effet, le texte commence par la générosité du Créateur. Tu pourras manger de tout arbre du jardin. La générosité, c'est positif. Ça commence par un ordre. Une interdiction, ça commence par un don, une générosité. Et en exégèse, c'est très important de voir qu'un mot arrive avant un autre. Ben oui, dans un discours normal, hein, si vous parlez à une personne, les premiers mots sont très importants. Ce que vous dites à la fin, ben, c'est soit moins important, soit c'est la conséquence de ce qui est venu d'abord. Mais vous commencez un discours par calculer ce que vous allez dire d'abord. D'abord la générosité de Dieu, d'abord le positif, d'abord le don. Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, car le jour où tu en mangeras, de mort tu mourras. Donc tous les arbres sont bons, il n'y en a qu'un qui fait problème. Et le problème c'est quoi? C'est que c'est comme une conséquence logique, quasi biologique, alimentaire. Tu en manges, tu mourras. Voilà, c'est un poison, hein. Donc fais pas ça quoi. Donc, très important de remarquer le don qui est premier. Alors, Dieu donne cette, cette consigne de générosité, et puis un interdit en effet partiel, hein, partiel. À qui ? À Adam. Adam, l'être générique. L'homme masculin, ben, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce n'est pas à Ève qu'il parle pour l'instant. Hein. Ce n'est pas à Ève qu'il parle. Or, c'est Ève qui va être séduite par le serpent à propos de l'arbre. Donc, Ève n'a pas entendu le commandement. Hein ? On lui aura transmis. Qui, ben, soit l'être humain en général, soit son mari Adam, mais Ève n'a pas entendu, hein, le commandement. À strictement parler, c'est à Adam que Dieu demandera des comptes ensuite. Et pourtant, c'est bien Ève qui a péché, comme on dit, mais elle n'a pas entendu le commandement. Donc vous voyez qu'il y a des médiations. Hein, il y a des médiations qu'il faut observer. Alors on peut remarquer que si on lit, maintenant je vais lire C. Hein. Non, je vais d'abord encore un peu commenter le B. Mais on peut remarquer que si on lit A et C à la suite, le récit se suit très bien. Non seulement on peut tomber, laisser tomber les quatre fleuves, mais on pourrait même laisser tomber la question du commandement. Regardez. Donc je prends le verset à la fin de A. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit accordée, etc. Ça pourrait se suivre, hein, il a créé l'homme et puis il va créer la femme. Et la question du commandement, on pourrait éventuellement la sauter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut la sauter du tout. Hein. Elle a été mise là exprès. Mais on voit bien qu'il y a comme un intermède, un interlude. C'est très important au théâtre. Hein. Il y a des interludes. Ce qu'on met entre deux scènes, ben, c'est très important. On va réfléchir pourquoi. Mais je réfléchis encore un peu sur le commandement. Est-ce que ce commandement, il est arbitraire? Ou est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce que Dieu dit ça exprès pour embêter l'homme sur un petit truc, quoi, hein, pour voir s'il va lui obéir? Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important là? Donc, on a déjà bien remarqué que ça commence par une permission. D'ailleurs, dans le premier récit de la Genèse, hein, récit du chapitre 1, il n'y a que le don. Voici que je vous donne toute arbre fruitier en nourriture. Et il n'y a pas d'interdit dans le premier récit. Il n'y a d'interdit que dans le second récit. Le don est massif. L'interdit est second et il est partiel. Mais évidemment, hein, ça nous savons bien, hein, quand on peut tout faire sauf une chose, c'est la chose qu'on ne peut pas faire qui nous intéresse, qui nous chipote, qui nous embête. Hein. Et finalement, sur laquelle on se concentre, à tort sans doute. Mais voilà, c'est comme ça, nous sommes comme ça. Pourquoi ? Eh bien, réfléchissons dans le texte. Hein. Au fond, l'interdit, est-ce que c'est un truc arbitraire que Dieu met là pour voir s'il va obéir ou non, hein ? Ou bien est-ce que c'est, au contraire, pour protéger sa vie ? C'est comme lui dire, écoute, là, il y a un poison, n'en mange pas. Parce que logiquement, si tu manges le poison, tu vas mourir. Ou est-ce que c'est un interdit qui est complètement arbitraire? Je remarque par exemple que dans le don, Dieu parle en je. Mais dans l'interdit, il ne parle pas en je. Relisons. Hein. Tu pourras manger de tout arbre. Donc il dit, il s'adresse je à toi, à tu, toi. Tu pourras manger de tout arbre, mais tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal. Pardon, là, je ne vois plus ce que je voulais dire, mais... Enfin, peu importe. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Dieu ne se met pas jamais en avant pour énoncer l'interdit. Oui, d'ailleurs, le don non plus. Hein. En fait, il dit « tu » chaque fois. Il ne dit pas « je ». Il ne dit pas « je te donne les arbres », mais il dit « tu peux manger de tous les arbres et tu ne mangeras pas ». Il ne se met pas en scène en « je », ni d'ailleurs dans le don, ni dans l'interdit. Comme si les choses s'inscrivaient dans la logique même des choses. Alors, Munk, par exemple... En fait, ici, je me base surtout sur Wenin, hein, que vous connaissez sans doute. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié les premiers livres de la Bible, mais alors j'ai aussi lu un auteur juif, un commentaire juif de Munk. Eh bien, Munk, par exemple, il dit non, non, ce n'est pas une espèce de logique, c'est une mise à l'épreuve de la liberté que Dieu veut comme telle, et le commandement est arbitraire. Le commandement est arbitraire. Dieu veut mettre à l'épreuve la liberté de l'homme. Les chrétiens, en tout cas les catholiques, ne sont pas du tout de cet avis-là. Hein. Mais pour Munk, et pour d'autres auteurs sans doute, hein, l'interdit est comme un arbitraire de Dieu, un commandement non rationnel. D'ailleurs, il utilise chouka plutôt que mitzvah. C'est une loi élémentaire pure qui met à l'épreuve la liberté de l'homme et en fait un être libre. Comme par exemple manger du porc, est-ce que manger du porc c'est parce que c'est mauvais pour la santé ou est-ce que parce que c'est pour se différencier de ceux qui mangent du porc? Eh bien, on peut dire non, c'est mauvais pour la santé ou bien bon. Mais on peut dire aussi non, non, c'est tout simplement une caractéristique de ceux qui ne mangent pas du porc par rapport à ceux qui en mangent. C'est arbitraire, on pourrait dire juste l'inverse. On ne peut pas manger de bœuf. Est-ce que le commandement est arbitraire ou non? Donc, d'habitude, les théologiens catholiques disent non, c'est pas du tout arbitraire, c'est au contraire quelque chose qui est où Dieu explique à l'homme sa propre nature. Hein, vis selon ta nature. La création de la femme, c'est le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors l'homme, de nouveau, ici, c'est à Adama, l'être générique, ho anthropos en grec, donc ça vaut à la fois pour l'homme et la femme, hein, pour le monsieur et pour la madame. Hein. Il n'est pas bon, ni pour l'un ni pour l'autre, pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Bien sûr, dans l'imaginaire, on pense toujours, hein, l'homme, et puis la création de la femme. Une aide qui lui soit accordée, ça c'est important. Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Donc voilà, il cherche une aide, soi-disant, hein, parmi les animaux. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel, toute bête des champs, mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Donc ici, l'homme nomme les animaux, mais il n'ouvre pas la bouche. On dit qu'il nomme, mais on ne dit pas ce qu'il dit. Donc il n'a pas encore parlé, Adam. Il n'a pas encore parlé. Il a parlé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il a donné des noms, on ne sait pas comment il a fait. Hein? C'est important, parce qu'il ne parle que lorsque viendra la femme. Hein? L'homme ne trouva pas d'aide qui lui soit accordée. Donc c'est cette fois-ci du point de vue de l'homme. Dieu trouvait que c'était comme ça, et déjà l'homme aussi maintenant trouve que c'est comme ça. Parmi les animaux, il ne trouve rien qui lui convienne. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Alors en grec, la torpeur c'est extasis. Extasis, c'est assez impressionnant, hein? Il fit tomber l'homme dans une extase. Il prit l'une de ses côtes, vous voyez que j'ai barré ça, hein? Il prit l'une de ses côtes, l'un de ses côtés. Et referma les chairs à sa place. Alors voilà la côte d'Adam. Hein, la côte d'Adam, hein, la femme est créée à partir de la côte d'Adam. Alors là, justement, l'hébreu eh bien, est mal traduit, en fait, lorsqu'on dit hein, par sa côte, sa côtelette, si vous voulez. Hein, il faut dire un côté. Il prit un côté. Il prit un morceau sur le côté. Alors, ça, disons, c'est assez important, en tout cas ça nous déstabilise déjà un petit peu, ce n'est pas la côte d'Adam, c'est le côté. D'ailleurs, il y a un livre de Sousnel, c'est aussi une dame qui a beaucoup travaillé toutes ces questions, qui s'intitule précisément « Pour en finir avec la côte d'Adam ».« Pour en finir avec la côte d'Adam, le féminin de l'être ». C'est un livre de 1997. Annick de Sousenel. Donc voilà, est-ce que c'est un détail ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, voilà, ce sont des choses qu'on remarque lorsqu'on fait l'exégèse. Et c'est intéressant de le remarquer avant d'interpréter l'ensemble. Hein. Le Seigneur Dieu transforma le côté, donc il avait pris à l'homme, en une femme, qu'il lui amena. L'homme s'écria, ah tiens, attention, la première parole de l'homme.
Oui.
La première parole de l'homme. Avant, il a désigné les animaux, mais comme sans ouvrir la bouche. Hein. Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Alors, os de mes os et chair de ma chair, c'est la première fois qu'on voit ça dans le texte. Ben non, juste avant, hein, il referma les chairs à sa place. Hein. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Alors finalement, qui est-ce qui est désigné en premier ? La femme. Celle-ci s'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Comme si Adam ne pouvait se nommer lui-même homme, Ish cette fois-ci, hein, que en désignant la femme, Isha. Alors ça c'est très intéressant au niveau, disons, phénoménologique. Hein. Je ne peux dire qui je suis que en désignant l'autre. Alors je ne peux dire qui il est qu'en désignant la femme. Et sans doute inversement aussi. Hein. Qu'est-ce qu'une femme ? Ben, une femme répond. Qu'est-ce qu'une femme ? Ben, elle répond en disant ben, c'est le partenaire de l'homme. Elle doit désigner l'homme. Qu'est-ce qu'un homme ? Ben, l'homme ne sait pas dire ce qu'il est sans dire ben, c'est le partenaire de la femme. C'est l'époux. Enfin bon. Mais c'est dans une relation. Aucun des deux ne peut se définir si ce n'est dans une relation. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Alors ça veut dire l'intimité, bien sûr, mais os. C'est Wenin qui fait remarquer ça, c'est peut-être la force et chair, la fragilité, la tendresse. Elle est l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle est à la fois ma force et ma faiblesse. Nous sommes ensemble forts et faibles. Hein, forts et durs et tendres. Mais ensemble, hein, on est les deux à la fois et on l'est à cause de l'autre, hein, d'une certaine manière. Aussi l'homme laissera-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils deviendront une chair, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Alors, est-ce que Adam a dit « je » ?
Non.
Non.
Pas encore. Donc avec les animaux, il a dit des choses, mais on ne sait pas s'il a même ouvert la bouche, hein, ou si les mots étaient dans sa tête. Hein. Avec la femme, il n'a pas dit « je ». Il a dit « mon, ma. Comme je vous disais, ben l'enfant, avant de dire je, il dit peut-être hein, la poupée de bébé ou bien la poupée de Bernard. Ben, il ne dit pas tout de suite ma poupée, je. Donc le ma, le mon, arrive avant le je. C'est intéressant parce que, comme si la subjectivité mettait du temps à émerger de cette relation entre l'homme et la femme. Elle émerge déjà, il parle vraiment. Hein? Il parle vraiment. Il dit déjà mon, ma. Et il reconnaît dans cette altérité une ressemblance. Ressemblance de force, ressemblance de faiblesse. Quand est-ce que l'homme dira je ? Quand est-ce que la femme dira je ? Eh bien, il faut passer au A, B, C, D, E, E. Là, eh bien, on entendra le je de l'homme et le je de la femme. Et quand est-ce qu'ils seront dans le je ? Pour avouer leur faute. Alors ça aussi c'est assez intéressant. Le jeu arrive au moment où on est accusé et qu'on se rend compte qu'on est coupable. Avant ça, il semble que dans le récit, le jeu n'émerge que dans cette expérience de la faute et de la culpabilité. Au niveau philosophique, là aussi il y a des grands philosophes qui ont travaillé là-dessus. Hein. Alors Munch fait une petite remarque aimable pour les femmes, hein, il dit voilà, l'homme a été tiré du sol parce que bon voilà, il est un homme tiré du sol, donc c'est un être assez grossier, mais la femme est plus délicate, hein, elle est tirée déjà d'une chair humaine, elle est tirée d'une chair humaine, pas de la terre, hein, une chair humaine, et c'est pourquoi elle est douée d'une plus grande intuition, d'une plus grande maturité, etc., elle est plus délicate. Alors j'ai indiqué l'effacement du Dieu absolu, une aide vis-à-vis, en vis-à-vis l'effacement du Dieu absolu. Lorsque Dieu parle, je vais lui faire une aide qui lui convienne, une aide qui lui soit accordée. En fait, l'hébreu dit quoi ? Une aide en vis-à-vis. Une aide devant lui. Devant lui. Une aide devant lui, en face à face. Donc le français peine à dire cela, une aide qui lui soit accordée. Bien, l'hébreu dit une aide en face à face. Mais alors, une aide, ce n'est pas simplement un moyen subsidiaire. Une aide, c'est une aide dans la détresse. Le mot ézer, que negdo, une aide comme en face à face, le mot ézer est un mot très fort. Ce n'est pas une aide, bon voilà, pour donner un petit coup de pouce, pour améliorer les choses. Non, c'est une aide dans la détresse. Ce mot hébreu revient, par exemple, dans les psaumes suivants. Ou ça. Yahvé est notre secours et notre bouclier. Yahvé est notre aide et notre bouclier. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? D'où viendra mon aide? Donc vous voyez que cette aide est une aide d'urgence, une aide de nécessité, de vie. Hein? Voilà, donc la femme est créée comme une aide, mais une aide vraiment nécessaire. Parce que cette solitude est comme une détresse. Et cette aide en vis-à-vis est comme l'effacement du Dieu absolu, dis-je, pour dire ceci. C'est que Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit en relation avec lui. Mais lui est infini, l'être humain est très, très, très petit. Il est fini. Comment est-ce que cet être fini, infiniment petit, va arriver à franchir cette distance qui le sépare de Dieu qui est infini? Eh bien, Dieu donne à chacun, à l'homme et à la femme, donne à chacun un compagnon ou une compagne pour entrer en relation avec Dieu et parcourir ce chemin, cette distance qui est infinie, qui est très grande, qui sépare l'être humain de Dieu. Sa créature est finie et ne peut être heureuse qu'en alliance avec lui, avec Dieu. Mais Dieu connaît la petitesse de l'homme, l'immensité de la distance à parcourir pour l'atteindre. Aussi se laisse-t-il affecter par le manque de cette créature finie, à distance infinie de lui, qui ne peut pas se passer de lui, mais a besoin d'une aide qui lui soit égale pour entreprendre ce long voyage qui lui fera aimer Dieu par-dessus tout. Oui, aimer son mari ou sa femme pour aimer Dieu. Voilà ce qui est suggéré ici. Dieu donne une aide à chacun pour en faveur de cette relation par rapport à Dieu. Être deux êtres qui s'aiment pour affronter et aimer le mystère infini de Dieu d'amour, ce n'est pas trop. Voilà comment je vois les choses. Et je vois donc ici aussi Dieu qui, d'une certaine manière, ne se propose pas comme l'unique objet d'amour pour précisément permettre à deux êtres de s'aimer pour le trouver, lui, comme objet d'amour, mais ensemble. Mais d'abord, Dieu se retire. Il se retire. Alors, on a dit le mot de Tzimtzoum la dernière fois dans le débat. Eh bien, Dieu se retire de devant l'être humain pour lui donner un compagnon, une compagne, afin qu'ils s'aiment et que dans cet amour, ils trouvent ensemble le chemin vers Dieu. L'un ne doit pas idolâtrer l'autre. L'homme n'est pas le Dieu de la femme, ni la femme le Dieu de l'homme. Dieu est bien supérieur, mais c'est ensemble, en s'aimant, qu'ils vont trouver le Dieu qui les a créés tous deux. 3. Pourquoi la femme fut-elle tirée d'Adam? Je crois donc que le texte même nous indique qu'il est difficile d'ajouter, la page 14, d'ajouter foi à une interprétation totalement littérale de la création de la femme après l'homme chronologiquement. On voit bien qu'ils sont créés ensemble. Mais il y a comme une préséance logique, une successivité, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, à d'autres moments dans la Bible, 1 Corinthiens 11 par exemple, on rappelle que Adam est premier, mais il faut se souvenir que finalement tout homme naît de la femme. Oui, l'homme peut penser qu'il est premier, mais en même temps l'homme vient de la femme. Donc c'est la femme qui est première. Eh bien, il y a une espèce de priorité réciproque. Qui est le premier? Eh bien, peut-être qu'on est le premier en laissant l'autre être premier. Quelque chose comme ça. Bon, je n'insiste pas, on verra plus tard. Le péché. La femme fut instruite par l'homme de la volonté divine. Donc, comme on a vu, le commandement ne s'est pas adressé à la femme ni à Ève, mais à l'homme en général, qui comprenait peut-être l'homme et la femme, j'en sais rien, mais pas très explicitement dans ce cas, ou à l'homme. Et donc, en montrant que c'est la femme qui transgresse un ordre qu'elle n'a pas reçu elle-même, un interdit plutôt, qu'elle n'a pas reçu elle-même, il y a comme une distance de disculpation, je dirais, hein, de déculpabilisation. La femme n'a pas obéi à un ordre qu'on lui a transmis. Si c'était Adam qui avait transgressé directement, ben on aurait pu le reprocher, tu as quand même entendu ce que Dieu a dit. Ici, la femme a transgressé quelque chose qui lui avait été répété. Et au fond, ça ressemble un petit peu à notre condition, à nous. Hein. On nous a parlé de Jésus-Christ. On nous a dit qu'il était ressuscité. On nous a parlé du décalogue. Tout ça, nous l'avons reçu. Nous ne sommes pas les premiers destinataires de tout cela. Et ça, cela donc demande une foi plus grande, dirais-je, hein, pour adhérer. Et si nous n'adhérons pas, je dirais, ça nous met dans une distance de déculpabilisation aussi, me semble-t-il. Hein. Lorsqu'on a reçu l'ordre soi-même, eh bien, il y a une plus grande gravité à enfreindre cet ordre. Et donc, c'est comme intermédiaire que Ève va succomber à la tentation. Je lis. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur avait faites. Il dit à la femme, tiens, il ne s'adresse pas à l'homme, hein, il s'adresse clairement à la femme. Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. C'est ce que Dieu avait dit. Oui, il avait dit, mais il n'avait pas commencé par là. Il avait dit d'abord, vous pouvez manger de tous les arbres. Le serpent met tout le poids sur l'interdit qui venait en second et qui ne portait que sur un arbre. Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Alors la femme va déjà un peu le corriger. Hein. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Alors j'ai indiqué, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, hein, positivement. Donc elle corrige déjà un peu le serpent. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Bien. Donc, elle corrige quand même le serpent en ramenant la question du don. Mais dans la question du don, elle ne parle pas de Dieu. Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres. Hein. Voilà, c'est notre affaire. Hein. C'est un dû. Tous ces arbres, ben, c'est à nous. Elle ne dit pas « nous mangeons de tous les arbres que Dieu nous a donnés ». Elle dit « nous mangeons des arbres ». Et même, elle ne dit pas « nous mangeons des arbres », mais « du fruit de l'arbre ». Comme si déjà l'arbre n'était plus intéressant, c'est le fruit, l'objet partiel, la partie du don qui m'intéresse le plus. Mais lorsqu'elle rapporte l'interdit, là elle dit bien que c'est Dieu qui le fait. Donc vous voyez comme elle tombe quand même déjà un peu dans le piège aussi, elle corrige en disant il y a le don, mais elle oublie le donateur, et puis elle ramène l'interdit, mais là elle dit c'est Dieu qui l'a interdit. Hein. C'est pas une logique naturelle, c'est Dieu qui l'a dit, comme si c'était arbitraire. Vous n'en mangerez pas, ça c'est ce que Dieu avait dit. Et alors elle en rajoute, hein. Et vous n'y toucherez pas. Bon, ça c'est encore aller un pas plus loin. Dieu n'avait pas dit, vous n'y toucherez pas. Il avait dit, vous ne l'en mangerez pas. Ici, c'est, vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon et mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Et puis après, c'est le tour d'Adam. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors je remarque qu'il a fallu 160 mots à Ève pour tomber et 16 à Adam. Donc 10 fois plus. Donc elle a mieux lutté, quoi, hein, d'une certaine manière. Et Adam, lui, il n'a pas eu à parler avec le serpent, simplement la femme l'a tordu et paf, il est tombé dans le piège. 16 mots, hein, pour tomber dans le piège, et la femme quand même 160. Alors que c'est pas elle qui avait reçu le commandement. Je trouve ça intéressant comme indice. Hein. Donc ça veut dire que, oui, il y a eu transgression, mais une transgression qui est déjà intermédiaire d'intermédiaire. Hein. Avec une distorsion du langage, où le serpent a induit une distorsion de la parole de Dieu, que Ève a essayé, la femme a essayé de corriger, mais n'a pas corrigé entièrement. Elle a même peut-être elle-même un peu exagéré en parlant du fruit de l'arbre plutôt que de l'arbre, de ne pas y toucher alors qu'il s'agissait seulement d'en manger. Hein. Mais grosso modo, voilà, elle a pris le commandement à sa manière. Mais ces distorsions, je crois, sont importantes à relever. Quand il y a un interdit, hein, eh bien évidemment, vous avez, il vous embête, hein, et il vous exaspère tellement que vous augmentez l'interdit. Je ne peux pas en manger, je ne peux même pas le toucher, je ne peux même pas le regarder. Et, vous voyez, on s'exagère à soi-même l'interdit. Hein. À force d'être fasciné par l'interdit plutôt que par le don, eh bien, l'interdit devient tout l'univers. Ça, c'est l'erreur qui est commise ici. La parole d'ouverture infinie de Dieu, vous avez de tous les arbres, est devenue une parole fermée. Hein, tu ne peux pas manger ni même toucher. Voilà la limite. La limite, qui est une limite peut-être simplement naturelle, est érigée en absolu par le serpent et par Ève. Conséquence et aveu du péché. Dieu interroge Adam. Alors c'est curieux que c'est Adam qui est interrogé. Eh bien oui, parce que c'est lui qui a reçu le commandement. Je lis, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Alors là, c'est une petite phrase terrible. Hein. Donc c'était très beau de voir un peu plus haut que tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Et maintenant, après le péché, c'est juste l'inverse. Leurs yeux s'ouvrirent et au lieu de voir qu'ils connaissaient comme Dieu, ben ils virent qu'ils étaient nus. Au lieu de voir qu'ils étaient infinis, ben ils voient qu'ils sont plus que finis. Ils ont honte de leur finitude. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. C'est un poétique. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur. Ils se cachent l'un devant l'autre, ils se cachent devant le Seigneur. Au milieu des arbres du jardin, le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai... » Ah, voilà la première fois qu'il dit « J'ai. » « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, et car j'étais nu, et je me suis caché. » Voilà une série de « je » qui arrivent, et qui sont comme le résultat de cette tension entre l'interdit et la transgression. Le « je ». On est responsable, on est désigné comme un « je », on se désigne soi-même comme un « je » coupable. Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, pas devant moi, une aide en vis-à-vis. Hein. Non, la femme que tu as mise à côté de moi. Elle a déjà un peu changé de place. Hein. Alors qu'elle aurait dû être devant, eh ben maintenant elle est sur le côté. Oui, petite préposition qui indique qu'il n'était pas dans le dialogue. Hein. Que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Alors non seulement on accuse la femme, mais on accuse un peu Dieu aussi. Hein. Donc c'est la femme que toi tu m'as donnée. Hein. Hein, c'est un peu de ta faute, hein, parce que c'est toi qui me l'as donnée. Et que tu as mise auprès de moi. Non, non, Dieu n'avait pas mis une femme auprès de lui, il avait mis une aide devant lui. Devant lui. Mais voilà, ils n'ont pas joué ce rôle d'aide l'un pour l'autre, sans doute. Et c'est ça qui les a menés à la transgression. Le Seigneur dit à la femme, qu'as-tu fait là ? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. De nouveau, le je arrive. Hein, et elle aussi accuse le serpent. Chacun accuse l'autre. Et non seulement accuse l'autre, mais dans le cas d'Adam, il est ingrat parce que la femme maintenant est considérée qu'à côté de lui pour le faire tomber. Et il est insolent par rapport à Dieu parce que c'est la femme que tu m'as donnée. Hein? La femme donc se décharge sur le serpent. Alors un auteur comme Eldredge par exemple, hein? C'est un auteur qui essaye de, face à la féminisation du monde et des féministes, c'est un Américain, essaye de lancer un mouvement de remasculinisation de l'homme. En disant que les féministes, ils gagnent du terrain, maintenant, nous, on doit remasculiniser l'homme. Alors, c'est un chrétien, hein, un évangéliste, et alors il dit, mais vous voyez, l'homme et la femme n'ont pas joué leur rôle, mais l'homme n'a pas protégé non plus la femme de la transgression. Il aurait dû, au lieu de simplement tomber en 16 mots, hein, comme je vous ai dit, il aurait dû lui dire, mais non, qu'est-ce que c'est ça, je te répète ce que j'ai entendu, etc. Et lutter avec elle. Parce que où était-il pendant que le serpent discutait avec sa femme, hein? Il se baladait, il se cachait peut-être, il disait, oh là là, il y a une affaire là qui, hein, qui m'embête beaucoup, moi j'ai pas envie de discuter avec celui-là ou quoi. Voilà, Eldredge, c'est une interprétation comme une autre, hein, mais il met en avant le manque de réactivité de l'homme dans cette tentation, la lâcheté de l'homme, hein, face à la tentation que subit la femme de son côté. Il aurait dû intervenir donc, de manière bien masculine et bien férile, ça c'est aussi le message qu'il veut faire passer. Le Seigneur dit au serpent, donc malédiction, promesse et sentence. Il n'y a pas que des malédictions, hein? Et il n'y a pas des malédictions d'ailleurs ni de l'homme ni de la femme. Le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, on commence par le serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te meurtrira la tête et toi tu la meurtriras au talon. Donc on s'en prend d'abord, Dieu s'en prend au serpent. Et à l'intérieur de cette malédiction du serpent, il annonce la victoire, finalement, de la femme. Hein? Donc celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Alors on a lu là, comme le premier évangile, l'annonce du Sauveur, l'annonce de Marie qui mettrait au monde le Sauveur, on a appelé ça le verset du protévangile. Il dit à la femme, alors voilà ce qui concerne la femme, je ferai qu'enceinte tu sois dans de grandes souffrances et péniblement que tu enfanteras des fils, ton désir te poussera vers ton homme et lui le dominera. Donc à la fois les souffrances de l'enfantement et la convoitise, séduction, etc. entre l'homme et la femme. Donc rupture entre les générations, la femme met au monde péniblement ses enfants, rupture entre l'homme et la femme au niveau de la génération des parents. Il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre, etc. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Rupture entre l'homme, l'être humain et le sol, hein, le cosmos qui devait lui offrir de beaux fruits d'arbres. Il y a maintenant les épines, le chardon. À la sueur de ton front, tu mangeras jusqu'à ce que tu retournes au sol. Tu retourneras à Adama. À Adama, tu retourneras là-bas. Tu n'es que poussière, tu es poussière, et à la poussière, affaire, tu retourneras inclusion avec la création de l'homme tout au début. Voilà. Alors, dans ces trois ruptures, il y a un point important que je vais essayer d'aborder pendant les dernières minutes. Cette mort est-elle la conséquence du péché? Cette mort que nous vivons, nous, hein, cette mort que... par laquelle passera Adam et Ève, est-ce que c'est la conséquence du péché qu'ils ont commis, ou bien est-ce qu'ils avaient été créés mortels? Et alors que signifie, ben, de mort tu mourras, hein? Alors il y a une lecture qui considère qu'avant le péché, l'homme était immortel naturellement, et que s'il n'avait pas péché, ben, de mort tu mourras n'aurait pas eu lieu. Il n'y aurait pas eu de mort. D'ailleurs, il y a d'autres passages de la Bible qui disent cela. Dieu n'a pas fait la mort. Sagesse 1, 13, 14. Il y aura une leçon là-dessus, la leçon 11. Saint Paul dit le salaire du péché, c'est la mort. Ce sera la leçon 4. Ce sont des textes forts. Mais est-ce que ça veut dire que la mort est vraiment la conséquence du péché de l'homme? On prend ici le récit tel qu'il se présente à nous. Eh bien donc, certains le soutiennent, mais pour ma part, j'ai une autre interprétation. Je vais proposer pendant ce cours que l'homme était créé comme un animal, ça veut dire fini, ça veut dire mortel, et qu'il était destiné à une certaine immortalité par la grâce, et que sans péché il y a une mort qui ne l'aurait pas connue, mais pas n'importe quelle mort. C'est la mort du péché, la séparation d'avec Dieu, c'est disons les affres du pécheur qui est la mort à laquelle l'homme a accès à cause de sa transgression. Mais la mort de son corps, eh bien, il me semble qu'on peut tenir qu'elle est naturelle. Oui, mais vous allez me dire quand même, de mort tu mourras. Oui, mais justement, je trouve que c'est un bon argument. Dieu dit, lorsque tu mangeras du fruit, de mort tu mourras. Et qu'est-ce que nous voyons? Il ne meurt pas du tout, Il continue à vivre, Dieu continue à dialoguer avec eux, puis on les sort du paradis, puis encore toutes sortes d'affaires qui se passent, puis je ne sais pas combien de dizaines ou centaines d'années ils vont encore vivre, parce que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, de mort, tu mourras. C'est pas ce qui s'est passé. Mais Dieu a quand même dit cela parce qu'il y a une mort qui s'est installée, la mort des ruptures de l'être humain avec les générations, entre eux, avec le sol et avec Dieu, évidemment. C'est ça la mort, à mon avis, qui résulte du péché et qui accentue la mort naturelle, qui fait de la mort naturelle quelque chose de très grave, de très triste, de très dramatique. Alors que, comme dit Peggy, si vous avez lu Peggy, je lis la 25e strophe de Ève, qu'il a écrit en 1914. Ce qui, depuis ce jour, est devenu la mort. Donc il parle de ce qu'était la mort naturelle, biologique, avant le péché. Ce qui, depuis ce jour, est devenu la mort, n'était alors qu'un naturel et tranquille départ. Le bonheur écrasait l'homme de toutes parts. Le jour de s'en aller était comme un beau port. Donc voilà, il voit la mort de l'homme comme la fin de sa vie terrestre et le début d'une autre vie. Le début d'une rencontre plus intime avec Dieu. Non plus au niveau du monde fini, mais au niveau d'une rencontre spirituelle plus élevée. Je relis ce qui, depuis ce jour, est devenu la mort, n'était qu'un naturel et tranquille départ. Le bonheur écrasait l'homme de toutes parts. Le jour de s'en aller était comme un beau port. Voilà, je crois que les chrétiens peuvent parfois vivre cela, en avançant en âge, en sentant que bien ils vont rencontrer le Seigneur. Et je crois que ce qu'il y a de pénible dans la mort, eh bien c'est cela qui provient du péché et de la transgression. Ce qu'il y a de pénible, qui est mortifère et mortiforme, nous avons peur de la mort. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Si c'est un tranquille et naturel départ. Voilà, mais bien sûr, actuellement, cette mort, le Christ nous a montré que nous pouvions la vivre avec lui, à l'intérieur de sa mort à lui, avec une confiance qu'elle n'était pas la fin de tout, mais au contraire, que nous étions appelés à la résurrection, à travers cette mort que nous pouvons vivre à l'intérieur de la mort du Christ. Et je vais en dire plus dans la leçon sur Saint Augustin, la leçon 5, parce qu'il va faire un espèce de carré logique avec la question de posse mori. Voilà. L'homme a été créé dans la condition de celui qui pouvait mourir. Alors, devait-il mourir? Ça, c'est une question que je vais essayer de vous expliquer avec Saint Augustin. Voilà, nous nous arrêtons ici.